Interview.
1 du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr. Depuis le studio de Luc, je suis bien content parce que c'est une première pour moi ici et en compagnie de Georges-Henri Ducreux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est rencontrés comme ça dans un des villages du Haut-Diois. Et puis, vous m'avez glissé que vous aviez écrit un livre, Le Grand Wison Blanc. Donc, parlons-en.
Oui, c'est voilà. Un animal. En l'occurrence, il s'agit du wison d'Amérique, qui est le wison qui est utilisé dans les élevages industriels, et non pas le wison d'Europe, qui est plus petit.
Et qui sert donc à faire des fourrures ?
À faire des manteaux de fourrure, des cols de fourrure, des toques en fourrure, etc.
Ouais. Quelle est la genèse de ce projet, Georges-Henri ? Vous êtes à la fois musicien dans vos heures, vous êtes également géologue.
Ouais.
Et comment tout d'un coup on a envie d'écrire un livre sur le wison ?
J'ai été contacté par une association qui s'appelle Combactive, qui est basée à Dijon et qui... défend la vie animale, en particulier s'était opposé il y a quelques années à un projet d'extension d'élevage de wisons industriels à côté de Besançon. L'élevage au départ contenait 5000 wisons en théorie, parce qu'en réalité il devait en contenir entre 6 et 10 000 peut-être. Enfin, bon. Ils avaient réussi quand même à le faire tomber à 2000 animaux et l'éleveur avait fait une demande pour que son élevage passe à 18 200 wisons. Donc, ils ont essayé de barrer ce projet. Le projet était soumis à enquête publique. Et avant l'enquête publique, leur avocate m'a contacté, parce qu'il se trouve que je suis sur les listes des experts de la cour d'appel. En fait, elle a dû regarder dans la liste.
Mais plutôt en géologie.
Alors, oui, mais leur angle d'attaque, c'était de prouver que l'éjection des wisons pouvait polluer les nappes et environnantes. C'était par ce biais-là qu'ils voulaient que j'intervienne, en fait. Et du coup, j'ai pris connaissance du monde du wison industriel et j'ai découvert, en quelque sorte, l'horreur que ça recouvre. Alors, l'horreur, c'est peut-être même un mot un peu faible, parce que si on regarde les installations, d'abord, ça ressemble à un camp de concentration, c'est-à-dire que les wisons sont dans des cages qu'on peut juger minuscules, enfin, elles font 60 cm sur 30 environ, enfin bon, à peu près.
Et, seuls par cage ?
Ils sont normalement jusqu'à 4 par cage. Voilà. Parce que la norme européenne fixe un plafond, c'est-à-dire qu'à 5, on considère qu'ils souffrent et qu'ils sont malheureux, et en dessous de 5, on considère qu'ils ont la belle vie. Donc c'est ça le critère. Et les wisons donc, sont nourris et engraissés jusqu'en novembre, et ensuite ils sont gazés. Alors, exactement comme dans les camps. Enfin, pourquoi gazer ? Parce qu'en fait, le gazage n'abîme pas la fourrure. C'est ça l'explication. Ils sont gazés dans un lieu qu'on appelle l'espace sacrificiel. Et ils sont gazés avec des gaz de peau d'échappement, en fait. Voilà. Le problème, c'est que dans certains cas, ils sont mal gazés. Donc, en fait, ils sont encore vivants alors qu'on va les congeler ou après ils sont embarqués en général à l'étranger pour le tannage des peaux, et ensuite l'assemblage des manteaux se fait plutôt en Asie, en particulier en Chine, et ensuite les manteaux reviennent chez nous dans les boutiques de luxe. C'est à peu près le circuit de la fourrure, en fait, que j'ai découvert, et ça m'a travaillé par la suite. Bon, il se trouve que j'ai écrit pas mal de nouvelles et même quelques romans autrefois, donc j'aime bien écrire, et ce thème m'a travaillé, et j'ai eu l'idée d'en faire un roman pour essayer de creuser Qu'est-ce qu'il y a derrière ce type d'élevage et qu'est-ce que ça symbolise dans notre société, en fait, voilà.
Ouais, c'était un peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous étiez sensible à ce qu'on appelle aujourd'hui, avec des gros mots qui ne veulent pas dire grand-chose, cette question du bien-être animal en élevage? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez...
Alors, oui, parce que je connais déjà les élevages industriels de porc ou les élevages de dinde, donc où on peut voir des élevages de 20 000 dindes où les dindes se marchent dessus, où les élevages de poules, ça m'est arrivé de faire une enquête publique parce que je fais partie aussi des commissaires enquêteurs sur des volailles et bon, c'est assez sidérant parce qu'elles sont également plusieurs dans des cages minuscules, elles s'écorchent, elles se donnent des coups de bec. En fait, là c'était des poules pondeuses. Donc c'est clair que c'est plus des animaux, hein, c'est de la production comme on produit des portes de voiture chez Renault ou Peugeot, quoi, en fait. C'est à peu près ça, quoi. En fait, c'est la chaîne, c'est le montage à la chaîne en quelque sorte. Ouais.
Est-ce que vous avez pu comprendre comment moralement on peut tenir sur ce type d'élevage en tant qu'éleveur, enfin, je...
Du point de vue de l'éleveur, son point de vue il est économique, hein. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à vivre, donc ils sont incités à faire des élevages de ce genre. Et eux-mêmes, enfin, de certaines façons, on peut pas dire que je ne sais pas s'ils sont victimes du système, mais en fait, ils sont un maillon d'un système. En fait, ils sont plus libres parce qu'ils sont démarchés par ce qu'on appelle des intégrateurs. C'était enfin le vocabulaire très important, ces questions-là. Enfin,
Oui.
l'intégrateur qui leur propose une opération, en fait, comme on pourrait faire une opération immobilière. Une opération financière qui consiste à monter un immense bâtiment. L'intégrateur s'occupe de produire l'aliment ou les poussins quand il s'agit de volailles. L'éleveur a juste à les nourrir le temps de leur croissance. Et puis, en réalité, il est très peu libre, l'éleveur, dans ce genre d'élevage. Ouais. Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi quelques visons, ça ne nous choque pas, et pourquoi 18 000, ça nous choque. C'est-à-dire, à partir de quel moment ça dérape, en fait. C'était la question que je me suis posée, en fait.
Et alors la réponse? Est-ce que c'est choquant à tous les niveaux finalement l'élevage?
Non, enfin bon, j'habite Miscon, à côté de chez nous, il y a une ferme, il y a des cochons qui sont en liberté contre la clôture de notre jardin. Je sais que chaque année les cochons disparaissent vers Noël. Ça me choque pas. Enfin, je sais pas. C'est l'élevage classique familial. Un élevage de 300 cochons où ils sont 10 dans 5 mètres carrés, et ils ont à peine la place de se mettre debout. Oui, ça me choque. Je crois que c'est d'une part le fait qu'ils ne vivent pas leur vie d'animal dans un élevage industriel. En fait, un cochon dans un élevage familial, il a quelques milliers de mètres carrés pour vivre. Enfin, bon, il a le temps de vivre sa vie de cochon d'une certaine façon.
Même si elle est un peu courte, peut-être, on pourrait
Elle
dire.
est raccourcie, mais bon, tant qu'il la vit, il la vit, quoi, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi l'anonymat, c'est-à-dire que quand on a quelques animaux, on les connaît, donc on a une relation avec l'animal. Quand on en a 18 000, on ne les connaît pas, donc il n'y a plus de relation, en fait. C'est peut-être l'absence de relation qui est le problème pour moi de ces élevages, et qui peut-être est symbolique d'une façon plus vaste de ce qui peut enfin, dériver dans notre société, c'est-à-dire qu'on ne devienne plus que des individus séparés les uns des autres, sans relation, en fait.
Les antispécistes pointent même le fait que cette pratique du génocide, telle qu'on le fait là, en tout cas sur les visons, décrit quand même des techniques qui rappellent certaines heures sombres de l'histoire, ne seraient pas possibles si on ne les avait pas appliquées sur ces animaux, justement, et transposées après aux hommes. Vous en pensez quoi?
Alors, quelqu'un qui martyrise les animaux est-il capable de le faire également sur les hommes? Enfin, donc, c'est toute la question. Je crois que c'est une question qui a été vue par des écrivains comme Tolstoï, en fait, hein, qui disait ça, en fait, ce qu'on peut faire aux animaux, on peut le faire aux hommes, d'une certaine façon, quoi. Il y a aussi, alors je me souviens plus du nom du cinéaste, mais un film italien qui sur les années Mussolini, où on voit un individu, un pré-fasciste, en fait, qui prend un chat et qui le balance contre un mur, donc lui fait éclater la tête. En fait, c'est le début de la cruauté générale, en fait, qui commence par la cruauté envers les animaux. Ouais.
Est-ce que ça se vérifie réellement? C'est pour ça que je questionnais l'aspect moral de l'éleveur. Dans quel état moral il peut se trouver? Est-ce que c'est pas finalement une détresse, vu que c'est affreux?
Bon. L'éleveur en question, là, ce qui m'a inspiré le roman, il faut savoir qu'il avait déjà été condamné à 1 an de prison avec sursis pour non-respect des règles. Et malgré tout, ce qui était surprenant, c'était qu'il était quand même suivi par la Chambre d'agriculture. Et dans le cas qui nous préoccupait, le commissaire enquêteur a donné un avis positif sur l'élevage, sur l'extension à 18 000 visons. Sous prétexte que il fallait donner sa chance à l'éleveur, il pouvait se racheter, en fait, et que ça allait créer quelques emplois, et que donc que c'était un élevage comme un autre, c'est-à-dire qu'il comparait avec un élevage de vaches laitières, donc que ça polluait pas plus que 60 vaches laitières, etc. Enfin, il faisait des comparaisons de ce genre. Ou bien que on tue les veaux pour faire des gants, enfin avec la peau des veaux, enfin ils comparaient de cette façon-là, quoi. Donc en écartant le côté cruauté, parce que dans l'élevage de visons, alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les élevages, mais il y avait des dérapages, c'est-à-dire que certains visons mouraient en cours de route, et donc bon, pour ne rien perdre, on les donnait à manger aux visons restants, par exemple. Donc, il y avait ce genre de dérapage qu'en fait les visons devenaient fous, en fait, ils tournent en rond dans les cages, ils s'écorchent, bon, ce qui d'ailleurs va pas dans le sens de la productivité. Voilà, il y a un seuil franchi quelque part, alors où je ne saurais pas exactement le dire. Enfin, dans le roman que j'ai écrit, j'ai inventé un débat télévisé où de toutes sortes de points de vue sont donnés. Voilà. Point de vue de la compassion, le point de vue religieux, parce qu'il y a aussi l'idée du sacrifice, comme Abraham qui
Oui,
veut
cette
sacrifier son, voilà.
le nom de cette chambre,
Voilà, donc peut-être que l'être humain, pour se sentir bien, a besoin de sacrifier d'autres êtres, et que le sacrifice des dindes, des visons, etc., peut-être c'est du même niveau que le sacrifice autrefois d'un agneau pour plaire aux dieux, en fait. Voilà.
Et sur la question de l'utilité finalement de cette production-là, parce que bon, des veaux, ouais, si pour faire des gants, ça paraît étonnant aussi, mais quitte à les tuer, autant utiliser leur peau jusqu'au bout. Mais il y a une production bouchère, probablement une production laitière derrière. On a l'impression que c'est pris dans un système alimentaire qu'on pourrait questionner, contester, juger trop intensif. Mais pour le vison qui...
Oui, alors dans certains pays, c'est pas considéré comme un luxe, c'est considéré comme nécessaire parce qu'il fait très froid. Enfin, je pense qu'en Sibérie, où un manteau de vison, il n'est pas décalé, quoi, en fait. En revanche, sur la Côte d'Azur, c'est un signe extérieur de richesse. Et le commissaire enquêteur opposait justement les manteaux en vrai vison au manteau en vison synthétique, en disant que c'était pire parce que le synthétique est fait à base de pétrole et qu'on utilise de la main-d'œuvre à bas prix, des enfants en Asie pour monter les manteaux synthétiques. Et
Mais les autres aussi, puisqu'ils vont en Asie, non?
oui, mais enfin, bon, c'était son argument. Et il s'offusquait de ce que les militants anti-fourrure utilisent quand même des téléphones portables qui sont eux-mêmes montés en Asie grâce à une main-d'œuvre exploitée. Enfin, bon, on peut donner des arguments dans tous les sens, hein, mais voilà. Mais le fond de tout ça, c'est le respect de la vie et surtout la limite. Parce que, par exemple, là, récemment, on a parlé de la ferme des 1 000 vaches. La ferme des 1 000 vaches, ça choque. une ferme de 150 vaches, ça choque pas. Donc il y a une question d'une borne qu'on franchit ou pas dans la société et à partir de laquelle on est choqué. Donc qui est difficile à définir d'ailleurs en fait. C'est peut-être cette question qui m'a travaillé.
Et vous avez trouvé, vous, le seuil à partir duquel vous êtes choqué? Là, on est sur de la poule pondeuse bio, par exemple, dans le Diois. Il y a des élevages de 5 000 et d'autres de 20 000.
Oui, alors c'est en mathématiques, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du mendiant, c'est-à-dire si vous donnez 1 € à un mendiant, vous n'allez pas le rendre riche. Si vous lui donnez 10 € non plus, si vous lui donnez 100 000 €, il n'est plus un mendiant en fait. Enfin, sauf s'il va les dépenser dans la journée, quoi. Donc à partir de combien d'euros est-ce que un mendiant n'est plus un mendiant, par exemple? C'est toute la question de la limite. Et c'est aussi, on appelle ça le paradoxe de la grenouille, enfin du têtard. Enfin, à partir de quand un têtard devient une grenouille, en fait, quand il a deux pattes, quatre pattes, quand il perd sa queue, en fait, c'est un continuum, en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut donner un numéro au vison de trop à partir duquel on a franchi la limite qu'il ne fallait pas franchir. Bon, mais en tout cas, donc c'est une sorte de continuum. En tout cas, à un moment donné, on est choqué par le côté totalement déshumanisé, si on peut dire, de ce genre d'élevage.
Oui, on pourrait avoir un élevage de 1 000 vaches, mais avec énormément de terrain.
Ben, c'est ce qui se passe en Argentine, où voilà, les élevages extensifs nous choquent pas, en fait. C'est le fait qu'on traite les animaux comme des objets, en fait. Je crois même que pour les vaches, il y a des vaches avec des vaches hublots, là.
Oui, c'est ça. On peut regarder la
On peut
production, oui.
regarder ce qui se passe dans leur panse, qui est bon, donc c'est des objets d'étude, c'est plus des êtres vivants, en fait. Voilà.
Avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce livre, Le Grand Vison Blanc, avec Georges-Henri Ducreux, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le plan géologique lié à la commande qu'on vous faisait?
Alors, il se trouve que là, dans la zone où a lieu l'élevage, on est dans un milieu qu'on appelle karstique, c'est-à-dire que on est sur des calcaires fracturés avec des réseaux de rivières souterraines, si on peut dire, qui fait que les eaux sont très peu filtrées dans ce genre de milieu. C'est un peu ce qu'on a sur le plateau du Vercors, en fait. Voilà. Contrairement à ici, dans le Diois, où on a des marnes avec par-dessus des matériaux d'altération argileux qui filtrent l'eau en fait. C'est-à-dire que si vous avez une pollution ici, bon, à part dans la rivière, elle est rapidement filtrée par le sol, alors que dans les milieux karstiques, elle est très peu filtrée. Donc une eau peut faire 20 km et ressortir avec
Tel
une,
quel.
telle, oui, pratiquement telle quelle, et une pollution. Donc il y avait quand même un risque de pollution des captages d'eau du secteur. Voilà, donc j'ai appelé un collègue hydrogéologue là-bas, mais il a pas voulu s'en mêler en fait de cette affaire. Et finalement, il y a eu un avis négatif pour cette extension. Enfin, d'une certaine façon, on a gagné. D'une part parce qu'il a été reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir tenu compte du rapport que j'avais fait. Et il l'a écarté en fait comme un élément du militantisme qui était de toute façon à éliminer a priori, qu'en fait, comme des gens mal élevés et pas objectifs. Et puis l'ARS a bloqué parce que l'éleveur ne respectait pas ses consignes, en fait. Voilà. Donc, bon, il y a dans l'administration, enfin, une partie de l'administration a exigé que ces préconisations soient respectées, et ce que bon, l'éleveur ne respectait pas grand-chose en fait. Bon, voilà. Et puis maintenant, le Covid est arrivé, et de toute façon, les élevages de visons vont être condamnés à être fermés prochainement. Enfin, on peut espérer en tout cas.
Pourquoi? Enfin, quel lien?
Parce qu'on a découvert que le vison était peut-être un maillon de la chaîne de contamination de l'homme. Donc le virus proviendrait de la chauve-souris, enfin d'après ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais de la chauve-souris passerait peut-être par le pangolin, et ensuite il y aurait un dernier hôte qui pourrait être le vison à partir duquel l'homme serait contaminé. En fait. Parce que le virus a besoin d'être transformé, en fait, semble-t-il, pour pouvoir contaminer l'homme.
Ça vient questionner d'ailleurs cette proximité qu'on a avec des élevages de plus en plus intensifs et qui, de fait, sont vecteurs de maladies. Enfin, les grippes aviaires, ça a déjà été le cas.
Oui, ça
la tremblante du mouton, tout ça.
Oui, ça fait une, ça crée une concentration de virus possible, mais une sorte de cluster animal, si on peut dire. Ouais.
Pourquoi le roman ?
Il me semblait qu'il y avait une matière suffisante pour écrire une intrigue en fait à partir de cet élevage. Donc l'histoire, je ne sais pas si je peux la résumer. Elle raconte l'histoire d'un pianiste qui vit au Canada, qui a voulu fuir sa famille parce qu'il accuse son père d'avoir tué sa mère d'une certaine façon, enfin en tout cas d'être responsable de la mort de sa mère. Donc il a coupé les ponts avec sa famille et il fait carrière en Amérique du Nord. Et puis il apprend que son père est décédé, donc il hésite. Puis finalement il vient à l'enterrement dans le sud de la France. Et en fait, contre toute attente, son père lui a légué le domaine qu'il avait dans un village de l'arrière-pays niçois, alors qu'il pensait que ça reviendrait à son frère, qui était l'associé de leur père dans une grosse entreprise de construction. Et il se sent un peu redevable, donc il reste quelque temps au village dans ce domaine, et il découvre qu'en fait l'agriculteur voisin a un projet d'élevage de visons, de 20 000 visons, quoi, en fait. Donc au départ, il ne sait pas ce que c'est. Il a déjà vu des visons en Amérique qui vivent au bord de l'eau. Enfin, il pensait qu'il y aurait 4-5 visons autour d'un étang, quoi. Et puis finalement, il rentre dans le problème. Petit à petit, ça dégénère parce qu'il y a des militants qui s'emparent du problème. Donc il y a une ZAD qui se crée à côté. Mais pendant ce temps-là, lui, il prépare des concerts, mais enfin, c'est la seule chose qu'il a en tête. Le reste ne l'intéresse pas, quoi. Mais il est mêlé malgré lui à tout ça, quoi. Surtout qu'il y a des combats entre l'agriculteur et les militants.
Il est voisin, il subit, quoi. Il voit ce qui se passe, il ne peut pas...
Sauf que ça l'empêche de travailler ses concerts, quoi. Bon, donc au bout d'un moment, il est obligé de s'en mêler, quoi.
Et c'est moi faire du piano.
C'est ça, en gros, c'est ça, quoi. Et il devient, alors du coup, à un moment donné, il va quand même se renseigner à la mairie, puisqu'il y a un dossier qui est déposé, quoi. Il découvre ce que ça implique, qu'il y aura du lisier épandu à côté de chez lui. Et puis l'agriculteur fait pression pour lui racheter le domaine, parce que ça le gêne, en fait, là. Le terme, c'est que l'agriculteur dit qu'il est impacté par la présence du domaine. Parce que dans ce domaine, tout est mis à l'envers, en fait. C'est-à-dire que la présence de la maison du héros impacte le projet d'élevage de visons. Bon, alors que c'est l'inverse, mais... Et donc, y a une forte pression pour qu'il vende son domaine, surtout que bon, il débarque là alors qu'il n'est jamais venu depuis 15 ans. Enfin bon, voilà. Mais du coup, lui, il creuse quand même un peu la question. Il s'aperçoit que donc le commissaire enquêteur est un peu complaisant vis-à-vis de l'éleveur. Du coup, il décide de donner un concert de soutien aux militants. Donc il y a la télé, FR3 qui vient, etc. Donc voilà. Donc du coup, ça médiatise le sujet, en fait. Et le village devient le centre de toutes les chaînes de télé comme on peut voir sur BFM TV, etc. Enfin bon, ça dégénère totalement, en fait, la situation. Par ailleurs, dans le village, il y a des marginaux qui habitent et qui veulent vivre à la mode amérindienne, et qui ont une sorte de culte pour un animal mystérieux qui erre dans la région, qui en fait est un vison blanc échappé d'un élevage probablement, mais à qui il prête des pouvoirs magiques, en fait, en quelque sorte. C'est une sorte de dieu des visons, parce que, comme disait Spinoza, si les chevaux avaient un dieu, il aurait l'apparence d'un cheval. Donc si les visons ont un dieu, il a l'apparence d'un vison. C'est logique, en fait. Voilà. Et donc le grand vison blanc semble... en tout cas jouer un rôle dans les différents épisodes du livre, parce que chaque fois qu'il apparaît ou qu'on le voit, en effet, il se passe quelque chose qui fait avancer l'histoire. Bon, ça peut être un hasard ou pas, enfin, on ne sait pas, en fait, finalement. Voilà.
Il faudrait demander à l'auteur, mais bon.
Oui, l'auteur, il ne se prononce pas, parce que... alors, il est extérieur, lui, l'auteur, à tout ça. Et l'auteur, enfin pas l'auteur, le héros a pour femme ou amie justement une Amérindienne, une Cree, quoi, qui fait une thèse, enfin, qui étudie l'impact du commerce des fourrures sur la colonisation par les Blancs de l'Amérique du Nord. Et en fait, en écrivant le roman, j'ai un peu creusé la question. Il semble que le commerce de fourrures a été un moyen de pénétration énorme dans les territoires indiens pour la colonisation. En fait, les trappeurs étaient en fait des avant-coureurs de la pénétration des Blancs dans les territoires indiens. Donc, les Indiens échangeaient des fourrures contre des armes avec l'espoir de vaincre les tribus voisines. Enfin, bon, donc, le commerce de fourrures a commencé à mettre la pagaille en fait dans le monde amérindien. Donc, l'héroïne, disons qu'elle intervient avec ses traditions amérindiennes à mettre en parallèle avec les marginaux néo-chamanistes, bon, que je caricature un petit peu, si vous voulez. Je voulais établir un parallèle entre la vraie culture amérindienne et la culture amérindienne revisitée par le monde New Age, peut-être. Enfin, voilà.
Pourquoi ces personnages-là, justement? Pourquoi Inzad? Comment vous positionnez politiquement là? Du coup, je m'adresse à l'auteur, mais dans ce livre.
Politiquement, enfin, en fait, c'est comme si j'avais tiré un fil, c'est-à-dire qu'à partir de l'idée d'extension d'élevage, j'ai tiré le fil du monde de la fourrure. Ça m'a conduit au commerce à partir du XVIIe siècle, donc au monde amérindien, qui lui-même m'a conduit à l'engouement actuel pour le retour à une vie dans la nature similaire enfin, à ce qu'on pense qu'était leur vie, parce que c'était peut-être pas idéal. Donc c'est juste le fil que j'ai tiré qui m'a mené à tout ça. Enfin, alors politiquement, je pense que l'homme s'est coupé de la nature, en fait. C'est frappant de voir que la plupart des mouvements écologistes sont dans les villes, en fait. Il y a beaucoup d'écologistes citadins, quoi.
Avec une idée particulière de l'écologie, d'ailleurs.
Oui, et peut-être de la nature. La nature, c'est pas idéal, c'est dur. Là où j'habite, à Miscon, il y a énormément de sangliers, il y en a qui viennent dans notre jardin, etc. Donc si on idéalise l'animal, il va nous détruire aussi. Enfin, il y a une lutte. Enfin, je suis pas contre la chasse si elle introduit une régulation dans la prolifération animale. Enfin, ceci dit, hein, les sangliers sont en partie comment les sangliers d'élevage. Donc, il faudrait faire la part entre les sangliers sauvages et les croisements. Enfin, bon, c'est un autre débat. Mais je ne suis pas antispéciste, enfin, je suis pas, comment on peut dire, aussi catégorique sur le fait enfin, sur la protection animale. Enfin, c'est un équilibre à trouver entre l'homme et l'animal, comme la chaîne alimentaire. Dans toute chaîne alimentaire, il y a des proies et des prédateurs, en fait. Donc, je pense que ce qui manque aujourd'hui à l'homme, c'est ce lien avec la nature, mais avec la nature vraie, qui est pas une nature faite de bienveillance totale. Enfin, c'est pas ça la nature. C'est cruel la nature aussi.
Ouais, c'est plutôt un environnement dur, effectivement. Je sais pas si on tiendrait longtemps dans cet environnement dur, nous, en vrai.
En vrai, on serait obligé de se fabriquer des arcs et des flèches, des javelots et de se défendre. Enfin, on en reviendrait à là, enfin, je pense, hein.
Quel message vous faites passer aussi au fond?
S'il y en avait un, c'est que il faut que le respect de la vie soit quand même la base de la vie en société. Enfin, ça commence par là. Et aussi la valeur de la vie, parce que en fait, pour faire un vison, la vie a mis plusieurs centaines de millions d'années, en fait, pour arriver à construire un vison. Un être humain aussi, d'ailleurs, hein, c'est apparu tardivement dans l'évolution. On a tendance à croire que l'homme est arrivé il y a 50 000 ans ou 100 000 ans sur Terre, mais c'est totalement faux. En fait, on n'est pas arrivé sur Terre, on est le produit d'une évolution, comme les visons. On descend des algues, des premières algues primitives. On a enfin, il faut à peu près autant de temps pour fabriquer un vison d'Amérique ou d'Europe et un Homo sapiens, en fait. Du point de vue de la vie, à mon avis, ça a la même valeur. Et on est incapable d'en fabriquer un, en tout cas. On est capable de les détruire, mais absolument pas d'en créer. Enfin, un vison n'a pas qu'une valeur marchande. Enfin, il a une valeur en soi, par la complexité que ça représente. Enfin, voilà à peu près le message que je donnerais. Et l'autre message, c'est que ce que j'essaye de démonter un peu, c'est des relations entre les hommes qui sont toujours à travers une procédure ou un formulaire, un protocole. Enfin, l'éleveur doit se plier à des procédures. Et ça, c'est à mon avis, c'est au détriment de la sensibilité. C'est-à-dire au fond, si on se met à la place de l'animal, très vite, on va se dire qu'on ne va pas l'enfermer, parce que si on se met à sa place, on se dit bon, il souffre et on va le lâcher, enfin, en tout cas, quoi. Donc je crois que c'est cette perte de sensibilité, de capacité de se mettre à la place de l'autre, mais au sens large, de l'autre, même à la place d'un arbre, à la place d'un loup, d'un sanglier, d'un mouton aussi, pourquoi pas, d'élevage, etc. Enfin, c'est ça qu'on perd et que la bureaucratie tente de remplacer par des règles, des protocoles, des procédures qui remplaceront jamais la sensibilité, en fait. Dans mon roman, j'oppose le héros qui est concertiste, qui symbolise la sensibilité, justement. Il fonctionne que à ça, en fait. Avec en face une bureaucratie qui s'arroge le droit de dire quand est-ce qu'on est heureux, quand est-ce qu'on ne l'est pas, quelles sont les limites à franchir ou pas, etc. En fait, ça devient inhumain, en fait, comme fonctionnement.
Et puis on en a plein de preuves en ce moment, hein, pour le coup. Rien à voir avec le livre, mais...
Oui, enfin, oui, les événements actuels montrent qu'on ne peut pas remplacer la sensibilité humaine par des procédures. Je crois que c'est une impasse. Ouais.
Et est-ce que vous êtes mis aussi à la place de ces agriculteurs dont on a l'impression que s'ils n'ont pas de choix, en tout cas ils sont un peu coincés dans un mode productiviste dont on ne voit pas à la fin? Enfin, est-ce que c'est une... On sait que beaucoup se suicident quand même aussi, que enfin, c'est une profession qui est extrêmement difficile.
Oui, je crois
Est-ce que
qu'aujourd'hui.
vous en êtes du coup un nouveau, de nouveau quelqu'un qui vient taper sur cette pratique-là qui va pas? Comment les agriculteurs pourraient prendre un tel ouvrage?
Je dénigre pas les agriculteurs. En fait, eux-mêmes sont un peu des victimes d'une transformation lente de la société. Enfin, pour donner un exemple, enfin, avant de faire de la géologie, une école agronomique à Paris. Et j'avais fait mon stage en Mauritanie. En particulier, j'avais étudié l'agriculture des peuls sur le bord du fleuve Sénégal. Et à cette époque, la plupart des villages attendaient la décrue du fleuve, faisaient des trous avec un bâton dans les limons et plantaient du sorgho, du mil, etc., quoi. Et puis, pour les faire évoluer, on leur a proposé des motopompes, donc qui venaient pomper l'eau dans le fleuve Sénégal et leur permettaient d'irriguer, sauf qu'évidemment, ça supposait un emprunt. C'était alléchant, mais il fallait emprunter de l'argent
pour acheter l'autopompe.
Pour acheter la motopompe.
Ouais.
Et une fois qu'ils avaient acheté la motopompe, ils avaient mis le doigt dans le système, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour rembourser leurs emprunts. et ils devenaient le maillon. Enfin, non, mais c'est le degré zéro du système, en fait. C'est comme ça que ça commence. Et je pense que les agriculteurs chez nous en sont plus à acheter une première motopompe. Sont obligés d'acheter des tracteurs.
Même les graines. Hein,
tout. Je vois à Miscon, il y a un jeune agriculteur qui a créé une fromagerie. La fromagerie est la proie de 50 normes différentes, chacune a un coût, si vous voulez. Donc il est obligé de produire, de travailler toute la journée pour payer ses emprunts, enfin, tout simplement. Quoi. Donc il devient une espèce d'esclave de
vache à lait, tiens.
Peut-être de vache à lait, oui. Mais ils ont une certaine sagesse parce qu'ils ont compris que c'est pas la peine de devenir très gros, quoi. Enfin, que plus on grossit, évidemment, plus on produit, mais plus on est esclave de ce système d'emprunt-remboursement. Donc je pense que le point de départ, c'est ce que j'ai vu au bord du fleuve Sénégal. Si vous voulez. Alors est-ce qu'il faut laisser les gens juste planter, faire un trou avec un bâton et mettre quelques graines dans un trou ou est-ce qu'il faut permettre d'avoir des motopompes? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ça crée un asservissement. Ils ne sont plus maîtres de leur production. Quoi.
C'est un peu un plaidoyer à la petite structure finalement.
Oui, je crois. Alors, je ne sais pas si on peut y revenir parce que le problème aujourd'hui de l'humanité, c'est la démographie, en fait, la surpopulation. C'est-à-dire que l'agriculture familiale a été possible peut-être avec 1 ou 2 milliards d'êtres humains sur la planète, avec 8, 10 milliards. On est obligé de trouver des systèmes pour alimenter tout le monde, surtout qu'il y a de plus en plus de villes.
Oui, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, on produit certes beaucoup plus de denrées alimentaires, mais elles sont très très mal distribuées, énormément gaspillées. Il y a quand même une grande partie de ces 10 milliards d'habitants qui ne mangent pas à sa faim.
Oui, alors après, je ne suis pas assez spécialiste pour dire si on arriverait aujourd'hui à nourrir toute la population avec de l'agriculture biologique traditionnelle. D'après ce que je sais, je ne crois pas. Mais bon, après, on pourrait aussi réduire la consommation de viande parce que si on veut manger de la viande tous les jours, ça suppose de faire des cultures pour nourrir les animaux qui eux-mêmes doivent nous nourrir. Enfin bon, ça augmente la surface de production. Peut-être pas utilement, en fait. Voilà. Mais oui, enfin, je pense qu'il y a, enfin, il y a une énorme réflexion à faire sur l'agriculture industrielle. Bon, qui s'est développé parce que ça a permis dans un premier temps de lutter contre les famines. En Inde, ça a été quand même efficace, en fait. Hein. Bon. Mais il y a des dégâts collatéraux gigantesques. J'ai un autre exemple. Quand j'étais en Mauritanie, j'étais aussi allé à l'oasis d'Atar. Et quand j'y étais allé, l'eau de la nappe n'était plus potable parce que des bienfaiteurs avaient voulu montrer aux agriculteurs du coin que la façon traditionnelle de puiser l'eau dans les puits à la main avec une peau de chèvre, enfin une outre en peau de chèvre, était dépassée. Donc avaient aussi fait des forages avec des pompes puissantes pour aller pomper l'eau. Et ils avaient mélangé l'eau salée qui était au fond de la nappe avec avec l'eau douce. Et l'eau était devenue saumâtre et imbuvable, en fait. Donc la technologie a aussi des retombées négatives, en fait. Bon, voilà.
Ça n'empêche pas de savoir bien faire, quoi. Hein, c'est ça, de faire attention un peu.
De réfléchir avant d'agir, ouais, c'est ça qu'on me disait quand j'étais petit, non ?
C'est oublié.
Et d'ailleurs, une fois un congrès à Marrakech sur l'hydrogéologie, je me souviens avoir rencontré un Syrien qui nous disait qu'en Syrie, presque toutes les nappes étaient polluées parce qu'il y a beaucoup d'associations humanitaires qui ont plein de bonnes intentions et qui vont pouvoir faire leur forage dans le petit village avec lequel ils ont un lien. Quoi. Et puis, comme ce n'est pas leur domaine, ils mettent en contact des nappes fossiles salée avec des nappes superficielles d'eau douce. Et puis une fois que c'est mélangé, c'est très compliqué à rattraper, quoi.
Sans compter l'infection à l'air. Enfin bon, c'est ce qu'on connaît, voilà, sur les puits un peu sauvages.
Donc il y a beaucoup de dégâts qui sont faits avec les meilleures intentions du monde aussi, hein. Bon. Ben là, on sort un peu du sujet, mais... Bon.
Ça illustre bien Le Grand Vison Blanc, Georges-Henri Ducreux. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce livre ?
Alors, il est paru chez un petit éditeur qui s'appelle Edilivre. Donc, contrairement aux grands éditeurs, il n'envoie pas gratuitement les ouvrages dans les librairies. Donc, il est référencé chez les libraires indépendants, à la FNAC, sur Amazon, évidemment chez l'éditeur Edilivre, mais dans les libraires doivent en acheter un ou deux exemplaires directement à Edilivre s'ils veulent qu'ils soient en vitrine. C'est un peu la limite du système. Voilà.
En fait, il est imprimé en fonction du...
Il est imprimé à la demande, voilà, au fur et à mesure. Alors, certains libraires que j'ai contactés, ou la FNAC de Cré, par exemple, en a acheté quelques-uns, puisque je suis passé les voir... Après, je ne vais pas aller faire du porte-à-porte sur toute la France. Voilà. Donc, j'essaye de le faire connaître, en particulier par des interviews, pour qu'il soit diffusé au maximum et connu au maximum. Voilà.
Donc, il faut le commander. Voilà, c'est ce qu'on dira.
Je pense qu'il y a que, Internet, voilà, si on veut changer la société, il faut lire Le Grand Vison Blanc. Ouais.
Bien. C'est quoi vos projets en termes d'ouvrages, justement ? Vos autres ouvrages, est-ce qu'ils sont... On peut les trouver ?
Alors, j'ai publié un recueil de nouvelles, mais en version numérique chez LibriNova. Là. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles autrefois. Bon, c'était des journaux de sans-abri là, qui m'avaient demandé d'écrire des nouvelles, ou des journaux écologiques. Bon. Il y en a une ou deux, d'ailleurs, qui sont passées à RDIWA. Mm-hmm. Bon. Et donc, dernièrement, surtout après les confinements, j'avais du temps, donc j'ai commencé à les regrouper, en faire des ouvrages. Donc, il y a un premier recueil qui s'appelle Le Sceau de l'Ange. J'avais eu un prix, d'ailleurs, avec un jury Gallimard pour cette nouvelle. Un prix d'un concours des cinémas arts et essais. Et j'avais gagné un an de cinéma gratuit dans le monde entier, dans tous les cinémas arts et essais, qui m'a permis de me mettre presque à jour au niveau cinématographique à l'époque. Enfin, j'ai pas arrêté d'aller voir des films, parce que j'adore le cinéma. Et j'ai un deuxième recueil là, que je suis en train de relire, avec aussi quelques nouvelles où j'ai eu des prix. Mais bon. Ceci dit, avoir des prix pour des nouvelles, ça sert à rien pour se faire éditer chez des grands éditeurs. Ce n'est pas leur problème, il faut être connu, quoi, en fait. Il n'y a que cette solution-là. Et il y a longtemps, j'avais écrit un roman qui s'appelait Père Image, qui était sur le sujet du néo-féminisme, ou de certaines femmes qui donc veulent avoir des enfants sans hommes, et qui expliquent que le père réel ne compte pas, seule l'image du père est importante. Donc en fait, la femme, elle toute seule, peut élever son enfant. Il suffit qu'elle distille dans l'esprit de l'enfant une bonne image du père. Bon, voilà, c'était un peu peut-être exagéré comme thème, mais enfin, ça m'avait intéressé. Et puis en projet, j'ai un roman comme m'a demandé un ami qui a une vie un peu extraordinaire. Il a découvert quand il avait 12 ans que son père n'était pas son père, que son vrai père était un soldat autrichien, donc il était né en 44, cet ami, et que son père était mort peu après la fin de la guerre, tué par des résistants. Et bon, il a pensé que c'était juste une amourette de sa mère, comme ça, dans un contexte comme incertain. Et à la mort de sa mère, il a découvert des lettres Donc d'amour entre sa mère et ce soldat autrichien. Il s'est aperçu que c'était peut-être une vraie histoire d'amour. Il a voulu creuser la question. Et il a contacté des associations de recherche de paternité, en fait, entre les Allemands et les Français, parce qu'il y a eu énormément d'enfants, en fait, pendant la guerre. D'une part, entre les soldats allemands et les françaises, mais d'autre part aussi entre les prisonniers français en Allemagne et les Allemandes, en fait. Bon, des deux côtés, il y a eu une descendance. Et puis, il ne trouvait pas de piste. Puis, il s'est souvenu que sa mère lui avait dit que son père était plus ou moins acrobate. Enfin, il a retrouvé des photos où on voit son père debout sur les mains, voilà, ou sur une pelouse, ou debout sur les mains, sur un balcon, enfin, etc. Et puis, comme il avait rejeté tout ce qui concernait ce père biologique, il avait occulté que sa mère lui avait dit qu'il avait fait un exploit, qu'il aurait marché sur les mains de Graz à Vienne, ce qui est une très longue distance, quoi. Il pensait que son père, de toute façon, c'était un vantard, un bluffeur, etc. Mais quand même, il est allé à Graz, au musée de Graz, et il a interrogé le directeur du musée sur cette histoire. Et le directeur du musée a simplement tapé sur Google Graz Vienne sur les mains. Et en fait, il est sorti des articles de journaux d'un personnage qui se faisait nommer Marathon Man, qui en effet avait fait cet exploit. Et il a envoyé des photos, etc. Et du coup, à partir de là, il a publié une annonce dans le journal. Et un certain nombre de personnes lui ont écrit. Des oncles, des tantes, des cousins sont apparus dans sa vie, quoi, alors qu'il avait déjà 60 ou 70 ans, je ne sais pas, 60 ans. Et il a découvert que son père, en fait, n'était pas mort, qu'il était mort très peu de temps auparavant, à presque 100 ans.
Pas du tout mort après la guerre, quoi.
Pas du tout, il a continué à avoir une vie extraordinaire. Il est parti aux États-Unis, il aurait été chauffeur de Reagan, il a écrit un livre sur les lignes de la main, etc. Enfin, c'est un personnage romanesque. Et il a découvert qu'il avait une demi-sœur qui avait un mois de moins que lui, c'est-à-dire que son père avait une double vie, il avait une femme en Autriche et sa mère en France, quoi, en fait. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été très bien accueilli par sa nouvelle famille autrichienne, dont un cousin qui peut-être plutôt un demi-frère. Enfin, il m'a montré une photo, on les voit tous les deux à côté l'un de l'autre en train de boire une bière. On dirait des jumeaux, en fait. Bon. Et je trouve ça assez beau parce que donc ce 60 ans après la fin de la guerre, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de conflit, c'est une espèce de réconciliation. Au-delà du nationalisme, des antagonismes, et il n'y a plus que l'humanité qui reste. Donc je trouve que c'est une très belle histoire. Voilà. Donc j'ai commencé à l'écrire. Ouais.
Eh ben, on vous invitera pour en parler quand il sera prêt, alors. Et on parlait du Grand Vison Blanc, le Grand Vison Blanc, ce livre de Georges-Henri Ducreux. Vous, merci pour cet entretien.
Merci beaucoup.
Et puis à la prochaine.
Hey, the bird. L'interview du jour.